Bonjour à tous. Vous allez bien? Voilà. Il y a quelques-uns qui vont bien, puis les autres un peu plus compliqués que ce matin, apparemment. Ça va? Est-ce que vous êtes motivés par ce projet de foi qui nous a été communiqué ce matin? Oui. Ça tombe bien parce que ce matin, on va parler de la mentalité de la foi. On va regarder en quoi une vie caractérisée par la foi pose un regard différent sur les épreuves de la vie. Mais aussi comment la foi affronte les choses différemment. Et c'est au travers de la vie de Caleb que nous allons tirer des enseignements pour notre propre marche et notre vie avec Dieu. Parce qu'il y a un peuple de foi dans la salle ce matin. Il y en a quelques-uns en avant. Les autres, vous ne vous rattrapez pas encore de route. On commence la lecture dans Nombre 14, verset 24. Le texte nous dit quand, comme serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance la possédera. Caleb, c'est un prénom qui signifie chien, un chien impétueux. Le chien était un animal méprisable dans le Proche-Orient ancien. On voit dans notre verset qu'il est appelé par Dieu mon serviteur. Il reçoit de la part de Dieu le statut honorable de serviteur qui a suivi pleinement les voies de son Dieu. Celui qui a peut-être été considéré comme misérable par les hommes est honoré par son Dieu. Et je voudrais dire ce matin que si des gens t'ont taxé, ont mis des choses sur ta vie, t'ont taxé de méprisable ou de pas compétent, ton Dieu a une autre parole pour toi. Ton Dieu a une autre parole pour toi. Et toi, ce matin, en tant que disciples de Jésus, nous avons tous un jour le désir d'être face au roi des rois et qu'il nous appelle, c'est bien bon et fidèle serviteur. C'est bien bon et fidèle serviteur. Si Caleb a été appelé ainsi, c'est qu'il a agi avec une foi différente des autres, avec un autre état d'esprit, avec une autre mentalité. Il agissait avec la mentalité de la foi et quatre de ces caractéristiques que nous allons voir ce matin. Et la première d'entre elles est la suivante. Vous pouvez envoyer le prochain note bientôt. La foi regarde les combats au travers du filtre de la promesse. La foi regarde les combats au travers du filtre de la promesse. Et pour comprendre cela, on va lire un passage dans le livre des Nombres où le texte nous dit, en Nombre 13, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils déclinèrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des secrets. C'est le récit du passage bien connu où Moïse envoie 12 espions pour explorer le pays de Canaan, le pays qui avait été promis par Dieu pour son peuple. Alors pourquoi il avait donné ce pays? Ce pays était promis par Dieu parce que Dieu voulait exercer un jugement particulier à cause des nombreux crimes des Cananéens, des Amoréens qui étaient là, qui commettaient des sacrifices humains pour adorer leur Dieu et même des sacrifices d'enfants. Et à ce moment-là, Dieu dit maintenant, faire ceci. Et donc, il envoie Israël comme un jugement et pour donner ce peuple, pour donner cette terre à son peuple. Et vous savez, dans cette histoire, quand les 12 espions vont rentrer, le contre-rendu qui va être fait de cet espionnage, va être négatif et pessimiste pour 10 d'entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris peur face à l'adversité. Vous savez, nos peurs et nos craintes ont cette faculté, cette capacité de nous paralyser et de nous empêcher d'avancer dans la vie. Elles ont cette capacité de nous faire végéter finalement d'être morts en nous-mêmes. Combien de personnes n'entrent jamais dans ce que Dieu a prévu pour eux parce qu'ils sont paralysés, parce qu'ils sont totalisés. De leur crainte et de leur doute. Vous savez, on peut finir par mettre plus de foi dans nos doutes que dans Dieu. savez, lorsqu'on écoute nos peurs, en fait, nous sommes en train de placer notre confiance en elle. Vous savez, on agit toujours en fonction de ce qu'on croit. Si je crois un doute, si je crois une peur, alors je vais agir en conséquence. Il y a quelques années, mes parents ont gagné un voyage pour une destination paradisiaque avec l'avion, tout le monde était offert. Mais mes parents ne sont jamais sortis de la France. Mes parents ne parlent pas d'autres langues. Et ils ont refusé le voyage qui leur était offert à cause de crainte. On va se perdre. On ne saura pas communiquer avec les gens. Ils ont refusé le moment paradisiaque à cause de crainte et à cause de peur qui les a empêchés de vivre ce qu'ils avaient pourtant reçu. Croyez que si les craintes ne nous apportent rien. Jésus nous pose une question dans Matthieu 6, 27. Il dit : qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Quel est l'impact de l'inquiétude dans la vie ? Nos craintes peuvent nous faire passer à côté de ce que Dieu a préparé en réserve pour chacun d'entre nous. Et là, je vais vous donner une citation profondément théologique qui vient d'un dessin animé qui s'appelle Kung Fu Panda 3 et qui nous dit la chose suivante : si tu te contentes de faire ce que tu es capable de faire, tu ne progresseras pas et tu resteras tel que tu es. Bien plus que d'avoir peur, les espions vont communiquer et contaminer tout le peuple avec leur incrédulité. Ce qui aurait dû être la conquête victorieuse initiale a fini en errance dans le désert. Et par la victoire du désert sur eux, il aura suffi de 10 hommes pessimistes et défaitistes pour faire manquer à tout un peuple la promesse de Dieu. Ceci doit nous rendre vigilants à la puissance de nos paroles et l'influence qu'elles peuvent avoir et exercer sur ceux qui sont autour de nous. Attention à ne pas accepter des opinions ou des ressentis comme étant des faits. Soyons prudents lorsque nous examinons, nous exprimons, pardon, un point de vue négatif. Ce que nous disons peut fortement influencer la manière d'agir de ceux qui sont autour de nous et qui s'attendent à nous pour avoir de bons conseils. Alors, avant d'ouvrir la bouche, il est urgent d'examiner notre état d'esprit et nos motivations. Par quoi je suis conduit lorsque je parle? Proverbe 17, 27 à 28 nous dit : celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. Même le fou, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Quel est le poids de mes paroles? Quelle influence j'exerce sur ceux qui sont autour de moi? Le manque de confiance dans le Dieu de la promesse, qui leur a promis la victoire, il est flagrant. Ils exagèrent la force de leurs adversaires. Lorsque notre texte évoque les géants, il emploie le thème du Nephilim, qui était un groupe d'hommes forts vivant sur la terre avant le déluge. Et la comparaison des descendants d'Anak avec ces hommes était quelque chose d'exagéré. Mais le problème, c'est qu'ils ne font pas juste qu'on grossit les problèmes. Ils ne font pas que grossir les problèmes. Ils diminuent également leur propre force. Ils se diminuent face à eux. Ils se comparent à des sequelles. Ils disent eux, ce sont des géants, non, mais pas des hommes, mais des sequelles. L'incrédulité, le manque de foi, le manque de confiance fausse notre regard. Le manque de confiance en Dieu fausse notre regard. Dieu dit que c'est un bon pays, eux disent que c'est un pays qui dévore ses habitants. Quel regard ai-je sur les situations? Denis Morissette fait souvent remarquer que le problème est bien plus souvent notre perception, notre façon de voir et de gérer nos circonstances que les circonstances elles-mêmes. Caleb avait pour sa part un autre regard sur la situation. Non pas que Caleb ne voyait pas les géants, mais il avait la ferme conviction que Dieu allait leur donner la victoire parce qu'il croyait dans la promesse que Dieu leur avait faite. Amen. Là où certains voyaient des impossibilités, Caleb voyait des opportunités. La foi ne rend pas les choses plus faciles, la foi les rend possibles. Elle ne rend pas les choses plus simples, mais elle les rend possibles. Ils savaient que le succès ne dépendait pas de la force militaire des Israélites, de leur propre force. Ils savaient que le succès venait de la confiance en Dieu qui leur avait promis le succès. Luc Dumas décrit deux types d'individus qui existent. Il existe deux genres d'individus, ceux qui voient les possibilités et qui se fixent des objectifs pour les atteindre, et ceux qui ne voient que des obstacles et qui ne font jamais rien. L'Épître aux Hébreux nous dira, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ferme assurance, c'est un grec hypostasis qui nous parle de ce qui a un fondement, de ce qui est ferme, de ce qui est solide, de ce qui a une existence actuelle. Le mot démonstration, c'est l'action de rendre évident, de prouver la réalité d'un fait. Ce verset nous dit que la foi, c'est croire que ce que je ne vois pas encore a déjà une existence actuelle, et que c'est quelque chose de ferme, que c'est quelque chose de solide. Cela est traduit par mes actions qui démontrent que je vis comme si je possédais déjà ce que je ne vois pas encore. Dieu est à l'œuvre dans le cours de nos vies, et ceci doit être un véritable fondement, un pilier sur lequel nous nous appuyons. Lorsque Jésus déclare que ceux qui placent leur confiance en lui, ceux qui placent leur foi en lui, ceux qui placent leur foi dans son sacrifice à la croix, sont sauvés, deviennent ses enfants, sont libérés du péché, c'est une réalité sur laquelle nous devons nous appuyer. Même si ta vie te démontre que parfois tu dérapes, même si ta vie te montre que parfois tu ne marches pas dans ce que tu devrais, ton salut est assuré parce que Jésus a accompli à la croix. C'est quelque chose de ferme et solide, même si avec tes yeux tu vois autre chose. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous savez, lorsqu'on plante une graine dans la terre, je pense qu'il y a des jardiniers dans la terre, il y a des jardiniers dans la terre, des gens qui sont plus que tu as dit quelque chose, il y a quelques-uns. Il nous semble que quand on met la graine dans la terre et qu'on arrose, pendant quelques temps, on se passe à rien. Avant de commencer à voir des pousses sortir et venir. Pourtant, le processus était déjà en place. Il se passe quelque chose même si avec tes yeux tu ne vois pas. Il y a un processus qui est en place, qui est caché, mais qui est bien réel. Et ça, c'est la foi. Quelque chose de caché, mais qui est bien réel. Les espions ont vu les géants, Caleb a vu Dieu les livrant. Les espions ont vu des problèmes, Caleb a vu comment les surmonter. Les espions ont découragé le peuple, Caleb les a mis toujours. Caleb, entre lui et Josué, c'est Caleb qui a parlé en premier pour encourager le peuple à entrer en Canaan pour la conquérir. Il n'était pas un homme d'une plus grande foi que les autres. Je vais lire ce que Thierry a dit parce que c'est ce que j'ai noté dans mon message. Il était un homme de foi dans un grand Dieu. Le projet est grand, mais Dieu est plus grand. Il n'avait pas une grande foi. La Bible nous dit qu'il suffit d'aller à mon parle. C'est rien. C'est l'objet de la foi qui est important. Ce n'est pas ma foi qui est puissante. C'est l'objet de la foi. Jésus-Christ, le Sauveur, celui qui nous conduit. Caleb tirait sa force de sa compréhension de Dieu, de l'image qu'il avait de Dieu, celle d'un Dieu qui est fidèle et qui accomplit ce qu'il promet. Amen. Pasteur Éric Sédarien, fondateur du Top Chrétien, raconte dans son livre Connexion divine. Et dans une rencontre nationale de pasteurs d'Ostérellement, alors qu'il leur partageait son désir d'atteindre les gens avec le message de l'Évangile par le biais d'Internet, aucun responsable ne l'a encouragé. Pas vu. Tout ce qu'il a entendu, c'est pas possible. faire la recette de mentalité bien française. C'est pas possible. Mais impossible, c'est un mot divin. Une top chrétien aujourd'hui, c'est plus de 150 millions de visites. 150 millions de visites. Ayons cette foi qui filtre les circonstances au travers de ce que Dieu nous a communiqué, au travers de ce que Dieu nous a déclaré. Deuxième point ce matin, la foi réclame son héritage. Josué 14, 7 à 9, qu'elle a dit, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh-Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droit sur le terre. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageant le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton cœur suivait sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel. 45 années se sont passées entre l'esclavage de Caleb et le moment de la répartition du territoire. Caleb se présente devant Josué pour réclamer le territoire que Dieu lui a promis. C'est un droit légal pour lui de réclamer la ville d'Hébron pour ses alentours, parce que Dieu lui en avait fait la promesse en réponse à son acte de foi et sa confiance 45 années auparavant. Le démon va dire la chose suivante, l'orientation que nous prenons aujourd'hui confirme déjà la destination de demain. Demain, je prépare son jour. Demain, je prépare mon jour. Les actions posées par Caleb dans le passé, elles ont des répercussions et des conséquences dans son présent. Quand Dieu nous promet quelque chose, nous avons le droit et nous avons le devoir de nous tenir devant lui pour demander ce qu'il nous a promis. Jésus dira dans Matthieu 7, verset 7 à 11, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Dieu est fidèle et il donnera toujours sa parole. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Nous ne lâchons pas d'avancer dans la vie en nous attendant et en réclamant les promesses que Dieu nous a confiées. Il est un Père qui prend soin de ses enfants. Il est un Père qui pourvoit à notre nécessaire pour que notre corps puisse bien se développer, pour que notre vie puisse bien se développer. Il est un Père qui prend soin de ses enfants. Alors peut-être que certains dans cette salle ce matin, l'âge parental que vous avez n'est pas forcément bonne. Peut-être que vous avez vécu des choses, une histoire familiale compliquée. Mais la Bible nous dit quelque chose de Dieu. Dans le psaume 27, verset 10, on nous dit, même si mon père et ma mère viennent pour m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Il est un père céleste. Là où nos parents ont été, l'une de ses bons pères du ciel, qui prend soin de ses enfants, nous pouvons nous faire confiance. Il est le Dieu fidèle et bon. Il est celui qui a offert sa propre vie à la croix. Parce qu'il voulait nous sauver nous-mêmes. Il voulait nous sauver de nos folies. Il voulait nous accueillir comme ses enfants. Il a donné sa vie à la croix parce que tu as besoin de ses yeux. Parce que tu es important pour son projet. Non pas qu'il a besoin de toi, mais il veut que tu sois avec lui dans son projet. Dieu n'a pas besoin de nous. Il peut faire ce qu'il veut. Mais il a décidé par qui nous aime. De nous prendre avec lui dans son projet, dans ses plans, pour qu'ensemble nous puissions être participants avec lui de sa nature. Il est un Dieu qui veut communiquer sa grâce et sa bonté. Alléluia. Caleb n'a pas hésité à rappeler à Dieu ce qu'il a promis. Dieu prend soin de ses enfants, il prend soin de toi, il connaît tes besoins. Et quelqu'un devrait dire amen. Troisième point, maintenant, la foi s'exprime dans la persévérance. Jésus 14, 10 à 11, maintenant voici que l'Éternel a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit que Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert. Et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors. Qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et de revenir. C'est un Caleb de 85 ans qui s'adresse à Josué. Il a encore plein de foi et il a encore plein de foi. Il est prêt à s'emparer des promesses. Ce type de foi est un encouragement et un modèle pour ceux qui marchent dans le Seigneur depuis des années. Les 45 années d'attente n'ont pas déteint, n'ont pas contaminé la foi de Caleb. 45 années, je n'ai même pas 45 années. Et pendant tout ce temps-là, lui, il attendait la promesse de Dieu. Au contraire, il se réjouit même que Dieu lui a permis de vivre jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Et il est tout joyeux de se dire qu'il va pouvoir enfin se lever pour la saisir. Quelle confiance et puissance dans ce Dieu. Je vais m'adresser ce matin aux vieux routards de l'Évangile dans cette salle. Ceux qui ont fait un bout de chemin avec le Seigneur. Je pose la question ce matin avec amour et respect parce que je veux moi-même pour ma propre vie se planter le Seigneur. Et puis encore dans cet état d'esprit. Ainsi, c'est une mentalité de vainqueur qui s'attend à Dieu. Le cul dans ta foi comme au sol complètement mort. Moi, je crois que le Saint-Esprit qui peut et veut communiquer le second souffle dans ce lieu ce matin. Je vois plein de gens qui sont fatigués, qui sont usés dans leur service pour Dieu. Alors, c'est vrai que la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Jésus ne nous a jamais promis une autoroute simple. Il nous a promis d'être avec nous, nous accompagner au quotidien. Et je crois ce matin que le Saint-Esprit a cette faculté de pouvoir nous relever, de pouvoir nous remobiliser, de pouvoir peut-être nous réanimer. Est-ce qu'on a besoin ce matin d'être réanimé spirituellement dans les promesses que Dieu a pour nous? Et voici, on a besoin de dire, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitiez ceci par la foi et la persévérance et l'esprit des promesses. Caleb s'est attendu à la promesse de Dieu pendant 45 ans, sans fléchir avec ce feu qui l'animait. Ma prière ce matin, c'est Seigneur, je veux ce feu. Est-ce que c'est votre prière ce matin? Est-ce que vous voulez ce feu de Dieu qui brûle en vous? Et puis, il dit avec toi, tout est possible, Jésus. Et il peut nous arriver de remettre en question ce que Dieu nous a promis lorsque l'attente est longue, lorsque l'attente peut sembler être déçue. Alors, on peut courir le risque de vouloir prendre des raccourcis, d'essayer de prendre par nous-mêmes ce que Dieu nous a promis. Et ça s'appelle le péché. Et ce qui s'appelle le péché, c'est manquer le but de Dieu. Dieu a un dessein pour chacun d'entre nous. Dieu n'est pas que dépourvu pour les petits choix qu'on peut faire. Dieu est au contrôle de tout. Et il a un but précis pour chacun de nos vies. Nos vies, nos chemins sont tracés par Jésus. Nos chemins sont en lui. Tout ce qu'il fait, les plans pour ta vie sont parfaits, même si tu ne comprends pas tout. Les plans sont parfaits. Les plans se réalisent toujours dans son timing, dans le timing de Dieu, 45 ans par terre. Le timing de Dieu. Les raccourcis, tous les raccourcis que nous allons chercher à prendre vont déboucher sur des impasses. Vous savez, quand on est dans une impasse, qu'est-ce qu'il faut faire? Demi-tour. C'est la définition de la repentance. Changement de mentalité, changement de façon de voir. J'ai besoin de faire demi-tour, j'ai pris un mauvais choix, Seigneur, je demande pardon, et je dois retourner à l'endroit où je faisais confiance à Dieu pleinement. À l'endroit où je faisais confiance à Christ pour qu'il voit et pour pouvoir être au bénéfice de sa promesse. La repentance, c'est un changement de mentalité, un changement de regard. Ce changement de regard va nous amener à nous entourer des promesses de ce dernier temps ce matin. La foi simple des promesses. Jésus 14, 12 nous dit: donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Je l'appris alors qu'il s'y trouve des Anakims et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai, comme il le dit. Le théologien Bruce Wolk a écrit que Dieu accorde initialement le pays de Caleb à cause de sa foi, mais maintenant Caleb doit en prendre possession en le revendiquant et en cherchant les puissants Anakims. Le temps de s'emparer du territoire est arrivé pour Caleb. Il était temps de passer maintenant de la parole aux actes, et c'est ce qu'il a fait. Il a manifesté sa confiance en Dieu en agissant. Jacques nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Nous avons souvent le mot réveil et le mot miracle dans la bouche, mais sommes-nous prêts à payer le prix? Sommes-nous prêts au sacrifice, comme Frédéric nous l'a partagé ce matin, à payer le prix et d'avancer par la foi face aux géants, de retrousser nos manches et de nous mettre à l'œuvre, de nous mettre en marche pour ne pas quitter le dicton que nous avons fait en ce moment. Ne soyons pas des doux rêveurs, ne soyons des concurrents. Vous savez, la différence entre rêver sa vie et vivre ses rêves, il y a un seul mot, c'est l'action. N'oublions pas le verset de la conquête de Canaan qui avait été donné à Jésus, tout lieu que vos pieds fouilleront. Il nous faut saisir le futur, ce qui a été déclaré par le passé. Le temps du verbe donné ici en hébreu est au parfait et il est utilisé pour une action qui est déjà complétée. Ce qui veut dire que Dieu a fait sa part, que Dieu fait sa part, mais nous devons faire la nôtre en mettant en œuvre la victoire que Dieu nous a donnée quand il nous a appelés. Malgré son grand âge, Caleb va se lancer dans la conquête et triompher de ses ennemis, les Anakims. C'était des habitants pré-israélites, on l'a dit, et leur force avec les proverbiales, on voit ça dans Deutéronome 9:2, qui nous dit tout peut résister aux descendants d'Anak. Donc, c'était des gens qui ont pressionné les autres. C'était proverbial dans le contexte de l'époque. Josué 15, 13 à 14, nous dit on donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des Judéens que l'Éternel avait ordonné à Josué. On lui donna Jéphuné, c'est-à-dire Hébron. Arba était l'ancêtre d'Anak. Caleb, chassa de cette ville les trois descendants d'Anak, Shechem, Aïman et Talmud, enfants d'Anak. Caleb va renverser Hébron et les trois descendants d'Anak parce qu'il a cru à la promesse qu'il a agi en France pour elle, qu'il a pu s'en apparaître. Je crois que Dieu nous a mis un petit peu loin de cette chose. Je crois que Dieu a fait à l'Église en général, mais aussi à l'Église, des promesses. Et je crois qu'il a appelé l'Église à être une source de bénédiction, une source de transformation dans la vie des gens de cette ville et de ce département. Je crois que Dieu a déposé un mandat sur notre Église. Mais pour pouvoir vivre cet appel, il va nous falloir affronter nos doutes. Il va nous falloir affronter nos craintes avec un regard différent. En étant animé d'un autre esprit, en étant chargé d'une autre mentalité. Et ça, ça se traduit par des actes concrets. Je crois que nous connaissons certains des domaines où nous laissons nos craintes étouffer les promesses. Ce qui nous empêche peut-être de poser des actions que nous savons devoir faire. Je suis convaincu que vous sentez dans votre cœur que Dieu, sur certains domaines de vos vies, vous appelle à poser de nouvelles actions. Pour d'autres, c'est des actions que vous posez, que Dieu vous demande de ne pas faire, que Dieu vous demande de faire. Entrez dans cette mentalité de foi et de confiance. Vous savez, dans la parabole de la bonne semence, Jésus nous sensibilise au danger d'entendre la parole et de la laisser étouffer par les soucis et les préoccupations. Parce qu'elles ont pour effet de nous empêcher de porter du fruit. Elles nous rendent terribles. Il nous parle de ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne parviennent pas à maturité. Quelles sont les préoccupations qui prennent l'essence de ton temps, de ton énergie? Quelle est la priorité de ta vie? Quelle est ma priorité de ta vie? comme la priorité de porter le royaume de Dieu, lorsque la priorité c'est de porter le royaume. Pour Dieu nous pose cette question à tous ce matin. Nous pourrons également être armés de persévérance et de constance pour entrer dans la priorité de Dieu. Pour en être toujours parmi de ce premier. Quelle est le monde, quelle est la mentalité et la détermination que la foi crée et développe en nous. Dieu veut le bien de notre vie. Nous nous rappelons. Ce qui est à partir de 10 esprits. Si on dit la promesse, dans le pays où le monde vient, ne sait pas pour nous. C'est bon pour les autres, mais ce n'est pas bon pour nous. C'est inatteignable pour moi. Quelle forme de l'éducation matin. Jésus a promis que ça allait être une chose, mais il a promis que personne ne pourrait nous ravir de sa main. Dieu est avec nous. Ça va contre nous. Je vais appeler ce matin les gens qui se sont interpellés. À vous mettre debout à votre place et dire oui, Seigneur, je crois que tu m'appelles avec une chose pour cette ville. Je crois que tu m'appelles avec un calme pour mon église locale. On va prendre ce temps qui dit Dieu admirable, il est grand mal. Ton nom se passe toute puissance. Et si tu es avec nous, tu seras contre nous. J'appelle une génération pour l'être ce matin, pour proclamer, Seigneur, je veux faire partie de ton équipe. Seigneur, je veux être rempli de toi, de ton feu, de ta puissance. Et je veux m'emparer pour le nom et ta gloire, Seigneur Jésus, et pour ton nom, c'est ton nom. Je veux que le Seigneur veut souffler un élan de joie ce matin dans ce monde. Dieu veut nous utiliser, Dieu nous a qualifiés par son esprit pour nous emparer de sa promesse. Je crois qu'il encourage beaucoup ce matin. Des gens qui sont complètement aveuglés par des mensonges qui viennent les empêcher d'entrer dans ce qu'ils ont à vivre. La foi est la ferme différence de son esprit. Je dis ce matin, Seigneur, que tu souffres dans ce lieu, que tu souffres. Sur l'église que nous sommes, que tout ce que tu m'as pour notre vie. Seigneur, j'ai besoin d'être animé, Seigneur, de tout ce qui vient de toi. Que ta loi prenne forme, que ton état d'esprit, Seigneur, nous conduise dans le choix que tu dois. Seigneur, on ne veut pas être connu pour nos paroles seulement, mais nous voulons être connus pour que nos gestes suivent nos paroles. Et Seigneur, que tout ce que nous faisons, Seigneur, serve simplement à la gloire de ton nom. Que tous voient que d'être disciple de Jésus, c'est quelque chose de différent. Et je crois, Seigneur, que tu veux nous utiliser, Père, pour amener beaucoup d'hommes et de femmes à expérimenter la puissance de la grâce de Jésus. Celui qui amène les choses mortes à la vie. Celui qui réussit les appels ce matin dans ce lieu. Il y a une chose que tu as étouffée. Des appels que Dieu t'a donné et que tu as étouffé. Tu m'as dit que quelque chose de meilleur pour toi. Il y a plus que ta vie. Est-ce que tu veux entrer ou choisir, t'emparer et agir en fonction du mandat qui est déposé sur toi? Je crois que le Seigneur appelle les plus pour communiquer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus que les hommes et les femmes. Expérimente ce qu'est d'être appartenu à Jésus, de vivre cet amour inconditionnel que Dieu donne pour sa fierté. Celui qui a donné sa vie à la croix, celui qui a donné son propre nécessaire pour nous donner la vie dans ce monde. Que Dieu a fait ce qu'il y a entre nous, pour nous faire partie de ce qu'il y a. Que nous voulons être en train de vivre à notre côté pour notre pays, pour notre vie. Nous ne soyons pas connus comme des millions pour que nous restions dans cette histoire, mais nous soyons aussi le jour de l'évangile qui est parfait, que Dieu veut nous sauver, que Dieu veut nous toucher, que Dieu veut nous faire grâce. Alléluia. Seigneur,